Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary. Bonjour à tous. On se retrouve cette semaine au cœur des Alpes françaises, à Albertville, là où se tient jusqu'au 18 octobre le Grand Bivouac, festival du film documentaire et du livre, qui depuis près de 20 ans mêle voyage et compréhension du monde. Ici, quand on lève le nez, le monde qui se déploie autour de nous s'appelle la Belle Étoile, la Roche Pourrie ou la chaîne du Grand Arc. Des sommets qui doivent certainement parler à notre invité. Un artiste et auteur de bande dessinée français qui, à la montagne, chevillé au cœur et au corps. Car Jean-Marc Rochette en est l'enfant de cette montagne. Sauf que, comme dans toute filiation, c'est une relation intime qui ne va pas toujours de soi. C'est compliqué, truffé d'abîmes et de crevasses. Il y a 2 ans, il a d'ailleurs publié « Aile froide, altitude 3954 », un roman graphique et autobiographique paru chez Casterman qui retrace ses jeunes années passées dans l'Oisan, collées aux parois, à gravir les sommets, jusqu'au point de non-retour. Cette BD a rencontré le succès, tout comme le fameux « Transpersonnage », un autre ouvrage de science-fiction cette fois, qu'il a dessiné dans les années 80 et depuis devenu culte, à travers le monde, adapté au cinéma et aujourd'hui en série. À si loin, si proche, on a toujours pensé que les lieux et le paysage nous forgent et nous font. Ils nous rattachent et nous ancrent, ce qui nous fait dire un jour « je suis d'ici ». Pour Jean-Marc Rochette, « je suis d'ici », ça veut dire « de là-haut » et il est avec nous depuis le Grand Bivouac pour en parler.
Je m'appelle Rochette. C'est un fait. Et ce nom pèse forcément. Je me suis senti lourd. Un descendant de paysans ardéchois qui cherchent par-dessus tout la légèreté. Mais peut-être est-ce précisément parce que je suis très lesté que je peux être léger, parfois très leste. Cela n'est pas sans rapport avec la pratique de la montagne, où on souffre, on sue, on marche, tout est lourd. Et pourtant, on finit par rejoindre la légèreté qui nous entoure, magiquement, de partout. C'est une expérience physique autant que spirituelle. Les vrais montagnards le savent.
Jean-Marc Rochette, bonjour.
Bonjour.
Alors ces mots qu'on vient d'entendre, ce sont les vôtres. Ils sont tirés de Manifeste pour peindre le bleu du ciel, paru en 2020 aux éditions Paulsen-Guérin. Et de plus en plus, c'est vrai, vous vous exprimez dans votre art et dans vos mots sur la montagne, dessinant en quelque sorte un trait d'union entre les vrais montagnards dont vous venez parler et les autres, ceux qui ne savent pas aussi peu ce que ça veut dire d'être léger là-haut, au sommet, parmi les nuages, la roche, la neige aussi. Alors j'imagine ce tableau aux mille nuances, on peut dire ça, c'est ce que vous avez découvert, vous, quand vous avez grimpé votre premier sommet. Est-ce que c'était ça pour vous, la montagne, un choc esthétique?
Pour moi, la montagne, en fait, le souvenir que j'en ai, c'est un col qui s'appelle le col du Géobernet dans l'Oisan, et qui est assez haut, qui est à 3000 mètres, mais on est au pied des bancs, qui est une montagne qui est à 3006, et à l'époque, il y avait beaucoup de glace. J'étais avec ma mère et j'ai vu cette montagne par la tranche qui est extrêmement raide. Il y a un couloir qui s'appelle le couloir nord-est des bancs qui brillait. Et ça m'a complètement happé, en fait. J'ai eu une impression esthétique assez bouleversante. Et en fait, je me suis dit un jour, je ferai ce couloir que j'ai fait, d'ailleurs. Je crois que ça fait basculer ma conception esthétique du monde, quoi.
Vous avez quel âge?
Je devais avoir 13 ans, quoi, 13, 14 ans. Et ça a été comme une espèce de révélation. Il y avait un bleu, donc ce fameux bleu, ce blanc des montagnes, ça brillait, et une espèce d'attirance. Je crois que je suis pas le seul. Hein. Tous les alpinistes, on prend des risques. Il faut qu'il y ait une carotte au bout de tous ces risques. Et c'est quand même la beauté, quoi. Et on est un peu comme des papillons qui sont attirés par la lumière, quoi.
Et alors justement, vous l'avez dit, vous avez parlé du bleu. C'est le titre aussi de cet ouvrage, Manifeste pour peindre le bleu du ciel, qui est en fait un recueil de conversations avec Fabrice Gabriel, qui est écrivain, directeur de la Fondation pour l'Action Culturelle Internationale en Montagne, le FACIM, ou la FACIM. Et vous le dites dans ce livre, dans cette conversation, que depuis ça, votre quête en peinture, en tout cas, c'est trouver ce bleu, un bleu parfait.
Oui, c'est-à-dire que je suis des Écrins, qui est un massif qui est dans le sud de la France. C'est quand même déjà, on est déjà un petit peu en Méditerranée, on est déjà un petit peu au sud. Et donc, il y a une espèce de double rapport de la haute altitude, puisqu'on est presque 4000 sur certains sommets, et puis de la Méditerranée. Et donc, on a un bleu qui est particulièrement profond, particulièrement lumineux, et qui est effectivement inatteignable. On ne peut pas le peindre. On ne peut pas le peindre, on ne peut pas le représenter en photo. Il est lui-même, c'est-à-dire qu'il a sa lumière interne, et donc c'est une quête infinie et sur laquelle on n'atteindra jamais. Donc ce bleu-là, c'est pour ça que c'est d'ailleurs Fabrice qui a trouvé le titre Manifeste pour peindre le bleu du ciel, parce que c'est un horizon qu'on n'arrive pas à atteindre, mais qui est intéressant de se poser la question, quoi.
Alors justement, en parlant de représenter, de dessiner la montagne, on sent qu'il y a chez vous ce désir comme ça de faire de la montagne bien plus qu'un objet sur lequel se porterait notre regard, nos crampons, mais même un sujet. Parce que vous parlez de portrait de montagne, comme un visage en fait.
Bah, oui, c'est qu'en tant qu'alpiniste, je les connais, ces montagnes, je les connais très très bien, je connais leurs points de faiblesse, leurs forces. Pour moi, elles sont une entité, quoi. Par exemple, l'aiguille de la Bérarde, je sais pourquoi elle me plaît, parce qu'elle est au centre du massif, c'est une espèce de pyramide, je sais que personne n'y monte dedans parce que le rocher est pourri, donc les gens n'y vont pas. Chaque montagne a pour moi
un caractère,
c'est pas un tas de cailloux. Oui, c'est un ensemble géographique et un ensemble esthétique. Moi, je suis très étonné dans la montagne, c'est à quel point elles se correspondent les uns les autres, comme s'il y avait une...
Elles dialoguent
entre elles au niveau esthétique, comme s'il y avait un créateur, on va dire. C'est le créateur, n'est que le chaos lui-même.
C'est les plaques.
C'est les plaques, mais effectivement, il y a une logique dans tout ça, quoi. Et disons qu'un alpiniste, est doublé d'un artiste, je l'espère, on a une vision de ça, quoi. On le voit peut-être un peu mieux que les autres. Et si on peut le faire passer aux autres, c'est très bien.
Et alors justement, ce regard, vous l'avez affiné au fil des années, parce qu'avant de dessiner, vous l'avez grimpé, cette montagne.
Il était une fois un garçon de 20 ans, semblable à des centaines d'autres garçons du même âge qui aimaient grimper et qui aimaient la haute montagne. Il était né dans une grande ville bruyante, mais il rêvait de grands espaces. Il avait eu la chance de conserver intacte cette vertu, cette qualité de l'enfance qui n'a pas de nom et qui est la différence entre vivre et seulement exister. La jeunesse, pour vivre, doit avoir un grand désir. La jeunesse, c'est l'âge des grands enthousiasmes et de la générosité. Fissures, dalles, cheminées, surplomb, le jeune homme donne le meilleur de lui-même pour les gravir, tandis que monte en lui un bonheur qu'il ne connaissait pas, mais dont il sentait confusément le besoin. Le soleil déverse sa tendresse, l'air est vif, le sang bouillonne dans ses muscles, son cœur bat d'émotion.
Avec cet extrait du documentaire de 1961 « Entre terre et ciel » du grand alpiniste français Gaston Rebuffa, dont vous avez reconnu la voix tout de suite, Jean-Marc Rochette, le lyrisme aussi. On va revenir, si vous le voulez bien, sur vos jeunes années de grimpeur que vous racontez dans « Aile froide », votre BD. Des années où, c'est vrai, vous n'avez eu de cesse, et ce que vous racontez, de vous lancer dans des grandes voies, que ce soit la Dibona, le Coup de Sable, le Pilier Franco aussi, parce que ce massif des Écrins dans les Alpes françaises, c'était, à l'époque, votre terrain de jeu, mais aussi, on peut le dire, un terrain d'expression, en quelque sorte, pour le gamin que vous étiez.
Je suis un peu marabouté par ce lieu. J'ai une impression de
d'envoûtement.
D'envoûtement, et je suis envoûté par ce lieu et j'ai une impression d'un exosquelette. J'ai l'impression que quand je suis là, j'ai un sentiment ontologique. Je me répands comme ça dans ce lieu. Je le connais. C'est autre chose. J'ai l'impression que je suis entier là-bas, quoi. Et donc, pour parler de Rebuffa en parlait très très bien. Et là, j'ai pris en exergue la phrase de... Parce que lui, c'est un Marseillais. Et donc, la première montagne qu'il a fait, qu'il a gravi, c'était les Écrins, ce montagne que je vois depuis mon atelier. Et on sent lui aussi qu'il est un type du Midi, qu'il a été touché par les Écrins. Et Chamonix, j'y vais un peu plus en ce moment. Je vois que c'est des montagnes magnifiques. Beaucoup plus haute, beaucoup plus glacée, sublime. J'ai vu les les rues dernièrement. Je ne connaissais pas bien tout ça, mais je suis marié en fait avec les écrins. Voilà. J'ai un rapport vraiment. C'est un lieu qui me parle énormément.
Alors c'est un lieu que vous avez découvert aussi pas du tout seul, parce que évidemment l'alpinisme c'est une histoire de copains, on les croise, on les rencontre dans votre BD Elle Froide, Sampé, La Roche-Joubert, Zartarian, et ça aussi évidemment Gaston Rebuffat incarne cette idée du compagnonnage, de la cordée évidemment. Ça c'est une question très importante quand on aborde, j'imagine, les sommets, les montagnes.
Ben, la cordée, c'est la chose la plus essentielle. Une cordée, c'est deux individus, deux personnes qui remettent leur vie dans la main de l'autre. Donc il faut avoir une confiance complète. Et bon, quand on est jeune, on est immortel, donc c'est plus facile. Mais maintenant, en vieillissant, je fais très attention avec qui je vais en montagne, quoi. Et oui, Sampé, c'était un type amusant, et toujours très drôle. Zartarian, c'était un très très grand grimpeur. Je pense que lui, il a été fauché par le destin. Là, j'ai rencontré aujourd'hui un ami qui l'avait connu.
Ici, à Albertville.
Ici, à Albertville, un Arménien comme lui. Et je pense que c'était un type qui aurait été un des plus grands grimpeurs français, quoi, et qui est mort à 17 ans, bêtement. Donc c'est aussi... la montagne, c'est ça aussi, c'est on monte très haut, on descend très bas, quoi. Et oui, là, franchement, la cordée, c'est essentiel. Et faut faire attention aux chutes de pierre, c'est tout.
Sachant qu'aussi, Jean-Marc Rochette, dans l'alpinisme, il y a une autre donnée qui est importante, qui est fondatrice, c'est que quand on trace, quand on s'engage sur une voie, on marche toujours dans les traces des prédécesseurs, des pionniers, ceux qui se sont lancés à l'assaut des Alpes et autres. Surtout que c'est quelque chose qui a marqué la montagne, qui marque les esprits, mais qui la marque dans son nom propre, parce qu'ils ont laissé leur nom.
Oui, moi je suis assez porté sur l'historique des montagnes, et donc il y a des noms qui sont mythiques. Là, j'étais tout à l'heure avec Benjamin Ribert, président des guides de l'Oisans, et on parlait de noms incroyables, qui, évidemment, pour le grand public, ne dit rien, mais un type comme Fourastier, par exemple, qui a ouvert des voies exceptionnelles dans les écrins, des voies qui font encore peur dans les années 30, etc. Chacun avait son style. Et alors, ce qu'on disait, c'est qu'ils ne laissent pas leur nom de leur vivant, souvent. C'est-à-dire que le nom arrive après, quoi. Par exemple, Dibona, qui était un grimpeur italien qui est venu dans la vallée du Vénéon, il est arrivé à la Bérarde et il a demandé ce qui n'avait jamais été fait. Donc on lui a dit face nord de l'Aile Froide n'a jamais été faite, face sud de la Mèche n'a jamais été faite, face nord-ouest des écrins, les gars lui ont dit ce qui est le plus dur. Et une petite montagne aussi qui n'avait pas été faite, qui s'appelait l'aiguille du pain de sucre. Et il est arrivé donc avec Maillère, et ils ont tout fait, quoi. Ils ont tout fait avec ces exploits extraordinaires. Et il a laissé son nom à la Dibona, maintenant. L'aiguille qui s'appelait le pain de sucre est devenue l'aiguille Dibona. Et on peut dire que c'est une œuvre d'artiste. Et ce Dibona est presque immortel maintenant. Je pense que tant qu'il y aura des humains et tant qu'il y aura des grimpeurs, on ne débaptisera jamais cette aiguille. Elle s'appellera toujours l'aiguille Dibona.
Mais sauf que lui ne l'a pas su de son vivant.
Lui ne l'a pas su. Il a grimpé dans cette vallée du Vénéon. Il a fait, on va dire, trois chefs-d'œuvre. C'est des chefs-d'œuvre. Face nord, la Coste Rouge est un chef-d'œuvre. La Maillère Dibona que j'ai en face de mon atelier, c'est un chef-d'œuvre absolu que je regarde. Je suis allé deux fois au pied, deux fois elle m'a fait reculer à cause des chutes de pierre.
Et pourquoi un chef-d'œuvre? C'est quoi un chef-d'œuvre?
Un chef-d'œuvre parce que d'abord la face était absolument libre, donc c'était vierge de tout. Et puis dans le cas de Maillère Dibona, il y a une espèce d'immense entonnoir de neige qui est magnifique. On dirait un linceul qui doit faire... La paroi fait 1000 mètres de haut et ça doit faire 600 mètres de neige. Donc on attaque une paroi très raide en neige. Sur 600 mètres. Et puis après, on oblique à gauche dans du rocher très pourri et on sort dans du rocher. Donc c'est une voie qui est rocher et glace, esthétiquement parfaite, toute droite. Ça reste un chef-d'œuvre. Elle a été faite en 1910 et elle fait... Toujours, donc, Ribert l'a fait en solo intégral dernièrement. Et quand il m'en parle, on voit qu'il a vécu une vraie aventure humaine. Oui, enfin, l'alpinisme, il y a une forme d'art quand même là-dedans, sur la façon dont on trace sa route.
Il y a une lignée aussi, c'est ce qu'on comprend.
Absolument, il y a une lignée des alpinistes qui se connaissent, qui se respectent les uns les autres. Et puis, il y a ceux qui sont capables de faire des très belles lignes. Donc, c'est des noms qu'on ne connaît pas. Fourastier est un très grand créateur, Maillère Dibona, etc. Voilà.
Alors tout à l'heure, on a parlé de choc esthétique, mais peut-être que le tout premier pour vous, Jean-Marc Rochette, c'était peut-être pas en altitude, mais d'abord dans un musée, devant un tableau magnétique du grand peintre d'origine lituanienne et immigré en France avant la Première Guerre mondiale, Raïm Soutine, extrait de Une vie, une œuvre, Archivina France Culture, 1996.
Il y a quelque chose de très troublant en peinture, c'est que la représentation de quelqu'un de vivant, c'est-à-dire d'un corps et de sa chair, donc, se traite de la même manière que la représentation d'un morceau de viande morte, c'est-à-dire de la viande. Donc en fait, ce sont les mêmes touches de peinture, ce sont les mêmes couleurs. Dans un cas, c'est de la viande, dans l'autre cas, c'est de la chair. C'est-à-dire, dans un cas, il n'y a plus rien à en tirer du point de vue de la vie, et de l'autre cas, c'est quelque chose qui peut bouger.
Pour vous, ce bœuf que vous avez sous les yeux, qui est donc un bœuf écorché, un bœuf mort, il est mort ou vivant ?
Ben justement, dans le cadre de cette toile de Soutine, c'est clair qu'il va vers quelque chose de vivant, c'est-à-dire qu'il lui donne une sorte de côté en train de bouger, en train de frémir comme ça, ou d'essayer de sortir de sa propre chair. Et la première impression qu'on en ressent, c'est quelque chose en train de bouger dans sa matière.
Le mystère de la plus grande peinture y éclate. Chair qui est plus chair que la chair, nerfs qui sont plus nerfs que les nerfs, bien qu'ils soient peints avec des fleuves de rubis, de soufre en feu, des gouttelettes de turquoise, des lacs d'émeraude écrasés avec des saphirs, des traînées de pourpre et de perles, une palpitation d'argent qui frôle et brille, une flamme inouïe qui tord les profondeurs de la matière après avoir fondu ses mines de joyaux. Qu'un bœuf ouvert rutile comme un trésor de Golconde, que les oiseaux étincelants et l'embrasement des tropiques y roulent en torrent dans la pourriture prochaine, et que cela soit de la viande ensanglantée, là est l'esprit.
Jean-Marc Rochette, une carcasse de bœuf ouverte et évidée, rougeoyante, née sous un pinceau qu'on devine tourmenté, c'est ce qui vous a aimanté enfant, quand vous alliez voir et revoir ce tableau au musée de Grenoble où vous viviez à l'époque, c'est ce qu'on découvre dans Elle froide. C'est quand même pas banal, vous en conviendrez.
Mais...
pour vous, peut-être que si, c'était votre quotidien, mais...
C'est que le musée de Grenoble, c'était pas le même que maintenant, c'était dans un lieu plus intime. Il y avait des œuvres de Picasso, des très beaux Matisse, des Urbaran, c'était ma collection privée, puisque j'y allais le mercredi après-midi et j'étais seul, parce que à l'époque, je ne sais pas si maintenant les gens s'intéressent à la peinture, mais visiblement à l'époque, j'étais seul. Et ce tableau m'a plu, je pense, sans... on pourrait... approfondir, mais déjà dans un premier temps, c'est que c'est un tableau relativement enfantin. C'est-à-dire que c'est quand même un peintre qui peint comme un enfant. C'est-à-dire, moi, j'aurais pu être très impressionné par le bœuf de Rembrandt, qui lui est... Et c'est de l'art très très complexe.
Dont il s'est inspiré d'ailleurs.
Dont il s'est inspiré, mais le Soutine, on sent que c'est un enfant qui peint, en fait. Il y a un côté enfant, peinture d'enfant. Mais qui aurait le savoir des grands peintres, parce que c'est de l'huile et c'est pas de la gouache, donc il y a une puissance de la matière. Et j'ai tout de suite senti cet attrait de la matière. Je pense que la peinture, ce qui reste au fond, c'est de la peinture. C'est-à-dire que la peinture, le mot peinture, c'est quelqu'un qui utilise de la peinture, et la peinture à l'huile est complexe, et qui en fait un objet vivant avec un objet mort, quoi. D'où l'intérêt du bœuf écorché, qui est un objet mort, enfin, qui devient vivant. C'est-à-dire que l'adéquation peinture, nature morte est parfaite. Alors ça, c'est moi qui le dis maintenant, mais à l'époque, je le sentais simplement que j'étais devant une œuvre qui me paraissait accessible. Voilà. Je pouvais la faire, quoi.
Et en même temps, c'est une nature morte qui ne cherche pas non plus à faire beau. Et c'est un peu aussi ce qu'on retrouve dans vos dessins de montagne. C'est un parallèle que je me permets de faire, mais dans Elle froide, par exemple, où la montagne n'est pas virginale, pure, blanche en toute chose, parce qu'évidemment, ceux qui montent le savent, mais dans l'image qu'on s'en fait. Elle est surtout noire, il y a ces rochers comme ça qui sont torturés, des arêtes saillantes, il y a cette idée comme ça de chair. Et puis, il y a aussi, c'est vrai, un sentiment qui monte au fur et à mesure qu'on vous lit, qu'on lit ce livre, une inquiétude. Puisqu'au fil des pages d'Elle froide, il y a une tension qui s'affirme, un pressentiment du danger qui se confirme.
Gaston Rebuffat, lorsque vous êtes sur vos parois verticales, à quoi pensez-vous ?
Et je suis très terre à terre, je pense où je mets les pieds et où je vais mettre les mains. Voilà. Non, il faut bien être... Non, c'est l'alpinisme. Bon, j'ai la chance d'être là, ou la grâce d'être là. Et bien souvent, on crie contre les jeunes imprudents, qui, etc. Et en fait, c'est que les accidents, ils arrivent à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé aussi. Et que ça arrive également aux alpinistes les plus forts, les plus confirmés. Alors, chaque chose a son temps. Quand je grimpe, je pense uniquement, très serré, si je puis dire, à mon escalade, à, je vous le disais tout à l'heure, à bien porter le poids du corps sur mes jambes, à mon équilibre et à rien d'autre. Là, il ne s'agit pas de se distraire une seconde, d'avoir la tête ailleurs.
Est-ce qu'il y a des montagnes qui tuent ?
Ah non, ça c'est, enfin non, des montagnes qui tuent. Il n'y a pas de montagnes qui tuent, il y a des montagnes où le rocher est bon, où le rocher n'est pas bon. Bon, la nature, elle est ce qu'elle est. La pesanteur existe pour nous. Pendant que nous parlons, ben, y a des gens de l'autre côté de la Terre qui sont, on pense, la tête en bas. Bon, la pesanteur existe aussi pour la neige, ça veut dire que de temps en temps, elle part en avalanche. Bon, c'est les règles du jeu, c'est comme ça.
C'est comme ça, nous dit Gaston Rebuffard en évoquant dans cet archivinal l'émission Radioscopie de 1970 ce risque permanent de l'accident avec lequel vivent et grimpent en fait les alpinistes. Et c'est vrai que pour vous, Jean-Marc Rochette, on ne sait pas s'il était attendu, redouté. En tout cas, l'accident survient finalement en 1976, c'est ça ?
Oui, en 76, je me souviens très bien, parce que c'était l'année de la grande sécheresse, donc les rochers étaient, tenaient moins, quoi. Et c'était dans une école d'escalade autour de Grenoble, et je m'étais mis au solo, c'est-à-dire que c'était, j'avais des... Parce que là, j'étais vraiment dans l'alpinisme, j'avais laissé tomber le dessin, ça ne m'intéressait plus du tout, et malheureusement, Zarta n'était plus là, était mort, Chardin avait été blessé, donc je m'étais mis au solo, quoi, et je m'entraînais, je m'étais dit comme ça, je vais m'entraîner au solo. Et c'est là où j'ai pris une pierre dans la tête, quoi, seul, et donc, ça a complètement changé ma vie. C'est-à-dire que si j'avais pas eu cet accident, je pense que j'aurais passé l'aspirant guide, parce que j'avais j'avais largement la liste de courses qu'il fallait.
Ce qui permettait d'être guide de haute montagne à terme.
Voilà, l'aspirant guide, c'était ce qui était le plus difficile, et puis après on devenait guide, et je pense que je serais devenu guide, puisque j'avais laissé tomber les études, donc j'étais pas question de faire autre chose, donc j'aurais été guide. Je pense que comme j'avais une mentalité de compétiteur, je pense que je ne me serais pas contenté d'être guide, j'aurais voulu être un bon guide, et à terme, je serais mort, parce que j'avais pas le niveau peut-être non plus, quoi.
Mais vous aviez déjà ce pressentiment avant l'accident ?
Deux, trois fois avant, et c'était passé très juste quand même. Il y a un moment, tu dois quand même, notamment avec Chardin, en façon d'aile froide, ses limites, et tout ça, j'aurais dû avoir les clignotants, mais la vie est comme elle est, et donc cet accident a eu lieu, et finalement, après, j'ai changé complètement d'optique, et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pris une pierre au niveau de la mandibule en bas, ce qui fait que ça m'a arraché des dents en bas, ça m'a arraché de l'autre, ça m'a cassé des dents, mais tout ça, ça se refait. C'est-à-dire qu'après, on se refait les dents, quoi. Si c'était tombé à un centimètre plus haut, ça m'a arraché le nez. Là, c'est plus... D'abord, je ne sais pas si on s'en sort, parce que... Donc, j'ai eu de la chance, quand même. C'est-à-dire que... Oui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on passe du jour au lendemain, ça, c'est l'accident, hein. Tout va bien, tout va mal, quoi.
Et donc, vous l'avez dit, après cela, après cet accident, vous décidez de tourner le dos à la montagne. Votre voie sera ailleurs, et à 20 ans, vous montez à Paris. Là, une autre aventure vous attend.
Si j'avais un bateau, je partirais loin d'ici, je partirais loin de là. Je mettrais les voiles, j'irais comme l'oiseau, parcourir la vie, découvrir ma voie, décrocher mon étoile, qu'importe si je me perds. Quand le ciel s'éteint, moi, j'avance bercé par l'univers, plus rien ne me retient. J'avance et j'oublie. Je pars à l'aventure, je laisse tout. Soyez-en sûrs, cette fois, même si ici tout me retient, même si dehors tout me fait peur, je pars à l'aventure. Si j'en avais la force, je crierais haut et fort au sommet des montagnes tout ce que j'ai au fond. Si j'en avais le cran, j'échangerais mon sort contre l'air qui soigne. Je quitterais ma maison, qu'importe si je me traîne, si le voyage est long. Je pars à l'aventure, je laisse tout derrière moi, je pars. Soyez-en sûrs, cette fois, même si ici tout me retient, même si dehors tout me fait peur, je pars à l'aventure.
C'était Nash et l'aventure sur RFI. On est toujours au grand bivouac d'Albertville à arpenter les chemins de vie et d'altitude de Jean-Marc Rochette, gamin des parois, devenu auteur de BD reconnus, mais aussi aujourd'hui passeur de montagne, nous invitant à renouveler notre regard sur ses reliefs et ses paysages. Parce que au juste, qu'est-ce qu'on a à jouer là-haut ? Notre vie, peut-être. Et justement, on a vu avec Jean-Marc Rochette, avec vous, comment vous avez tourné, je l'ai dit, le dos à la montagne pour devenir dessinateur de BD, mais alors pas n'importe laquelle. Puisque à l'époque, c'est quand même, vous avez fait le choix d'une BD irrévérencieuse, cynique aussi. Alors on se demande si c'était peut-être pas après votre accident justement pour conjurer en quelque sorte la mort que vous aviez côtoyée de très près. Et puis c'était une époque, les années 80, plutôt quoi ? Alors on dit quoi ? Punk ? On l'appelle comment ?
Punk, ouais. Ouais, c'était à l'époque, il y avait Philippe Villemain, Martin Véron, tous des noms de dessinateurs de l'époque. Moi, j'étais très influencé par l'underground américain, la contre-culture américaine. Donc, c'était Crumb, c'était Mr. Snoid. Par exemple, Mr. Snoid, c'est un des personnages les plus antipathiques qu'a créé Crumb. Et je m'en suis beaucoup inspiré pour Edmond le Cochon, en fait.
Oui, c'est ça. C'est un peu des salauds, des gens cyniques, avec cette espèce de regard très acerbe. Quand même, sur les autres.
Oui, c'était avec Martin, on se disait ça, on ne peut pas le faire, tiens, on va le faire.
Sur Edmond le Cochon. Dans la provoque, en fait.
Dans la provoque, oui, c'était de la provocation. On avait 20 ans, hein, donc. Et c'était du genre, provocateur. Et ça a fonctionné auprès d'un public de jeunes gens, quoi, de jeunes filles d'ailleurs, et ça les faisait bien marrer, quoi. On faisait rigoler, comme les mauvais élèves qui font rigoler les copains, derrière la classe, au dernier rang, quoi. C'était ça, quoi. Et ça a duré 4-5 ans, quand même.
Et à cette époque, il n'y avait pas du tout, je vais faire un jeu de mots, hein, permettez-moi, mais d'écho des montagnes. C'était plus l'écho des savanes où vous aviez publié.
J'avais complètement laissé tomber la montagne. J'ai fait une des voies les plus longues que j'ai fait dans le 81, j'ai fait la Pierre Alain en face sud de la Meije, la directe. Et c'est juste après que j'ai fait Transpersonnage. Et puis je suis retourné, j'étais grimpé au Mali aussi, dans la boucle du Niger, dans un endroit qui s'appelle la Manfatma, Ombori Tondo. Et là, je me demande comment j'ai pu aller me balancer dans des voies pareilles. C'était inconscient, quoi.
Alors, vous l'avez dit, c'est aussi à cette époque que vous avez monté à bord de ce train devenu mythique, le Transpersonnage.
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
Nous sommes le 1er juillet 2014. Il est précisément 6 heures. En direct du tout premier aéroport.
Aujourd'hui, 79 pays vont commencer à répandre du CW7 dans les couches supérieures de l'atmosphère.
Qui, une fois répandu dans les couches supérieures de l'atmosphère, va étonnamment ramener les températures mondiales à des normes idéales.
Selon les experts, l'agent de refroidissement CW7 permettra de ramener les températures moyennes du globe à des niveaux raisonnables, apportant une solution révolutionnaire au réchauffement planétaire.
Dans Dans un contexte de chaos climatique, la planète entre dans une nouvelle ère glaciaire et seul un train, en mouvement perpétuel tel une arche, le transpersonnage, rassemble alors à son bord le peu d'humanité qu'il reste. C'est la trame du film hollywoodien Snowpiercer, dont on vient d'entendre un extrait, réalisé par le coréen Bong Joon-ho en 2013 et inspiré, Jean-Marc Rochette, de votre BD en noir et blanc, cru, austère. Sauf que cette BD, alors, qui a été créée par vous-même, mais aussi et surtout l'idée Jacques Loeb, cette BD, elle avait vu le jour 30 ans auparavant, avant le film. Et en fait, jusque-là, elle était restée... alors, elle était devenue culte, mais j'ai l'impression, surtout par les amateurs de SF, de science-fiction.
Ouais, elle était culte. Elle a eu son succès à sa sortie en 83, 84. Ça avait bien marché. Et puis, marché parce qu'on était dans un magazine. Et puis, elle s'est effectivement... elle a disparu au fil du temps. Et elle était même pas culte, en fait. Elle était oubliée. Elle était vraiment... C'était une bande dessinée qui était en train de disparaître. Enfin, elle aurait pu rester dans l'histoire de la bande dessinée, la petite histoire, on va dire. Et j'ai relancé, sentant que c'était fini, j'ai relancé ça avec un scénariste qui s'appelait Le Grand. On a sorti deux livres qui n'ont pas marché du tout. Donc je me suis dit, bon, c'est fini. Et j'ai essayé de relancer, mais l'époque n'y était plus. On était en 1999. Et quelques années plus tard, je crois que c'est 3 ou 4 ans après, Bong Joon-ho a lu cette BD dans une petite librairie de Séoul. Et là, par contre, l'histoire est repartie là. C'est-à-dire que d'une BD donc inconnue ou qui était devenue inconnue, elle a repris la lumière et là, pour l'instant, c'est vrai qu'elle a pour pas maintenant elle est devenue vraiment culte quoi.
Et le train est lancé.
Oui, le train est lancé. Comme vous avez dit, il y a eu ce film qui a très bien marché. Moi, ça m'a fait relancer un dernier épisode qui s'appelait Terminus, qui a relativement bien marché ce coup-ci. Ça a relancé surtout. Le premier avec Jacques Loeb, on a vendu, alors qu'on avait vendu à l'époque, peut-être on avait vendu 15 000, on en est presque à 100 000 de revente. Donc grâce à Bong Joon-ho, il faut dire les choses comme elles sont. Mais aussi, il y a eu une adéquation entre la bande dessinée et le film, parce qu'il y a certains films qui viennent des BD et les BD n'apparaissent pas. Quoi. Et, alors que là, il y a... Bong Joon-ho en a parlé, parce que c'est un amateur de BD, et donc ça a fonctionné, quoi. Jusqu'à maintenant la série, quoi.
Alors, sur ce train, il y a quand même beaucoup de choses à dire, parce que c'est quand même un huis clos où il y a cette humanité en sursis. Il y a ce fond, même c'est d'ailleurs aussi la trame du film, évidemment, de lutte des classes. Ça en dit beaucoup sur notre époque actuelle, quand même, sur ce sentiment aussi d'étouffement et de lutte, à la fois interne, personnelle et en même temps collective, dans une logique de survie. Mais j'aimerais quand même qu'on parle et qu'on revienne à la montagne, parce que j'ai vu, mais vous devez le savoir, un lien finalement entre ce train, entre l'histoire de ce train et la montagne. C'est que il y a dans les légendes alpines toujours cette idée que les hautes altitudes sont des domaines hantés, en tout cas il y a des amérantes, c'est le royaume des morts. Et il y a comme ça ce qui se raconte au coin du feu historiquement, cette idée que jadis tout là-haut, avant c'était des pâturages fertiles, des jolis champs, des belles vallées, et qu'une malédiction, on va dire, un fait de l'homme aurait maudit la vallée et hop, la neige, la glace est finalement apparue, comme un peu pour punir l'homme. Et j'y ai vu finalement une corrélation avec l'histoire de ce train, où finalement les hommes ne peuvent plus y vivre parce qu'ils ont trop usé la planète ou pas, parce que ça c'est des scénarios un peu différents entre la BD et le livre. Mais en tout cas, il se trouve qu'il y a une ère glaciaire et il n'y a plus beaucoup d'hommes, sauf dans ce train. Vous aviez ça en conscience, l'idée que moi je me suis dit, il y a quelque part ce fond mythologique du rapport qu'on a à la montagne et plus globalement aux éléments en fait.
Bah, l'histoire n'est pas de moi, elle est de Jacques Loeb qui a eu cette idée d'un train et du froid. Quoi. Et donc en fait, on peut aussi voir la métaphore de la Terre dans l'univers, c'est-à-dire que la Terre étant le seul endroit vivable autour de l'univers, bon, on le réduit et on le met au niveau du froid. Il s'avère que symboliquement pour moi, ça a très bien marché parce que c'est un élément que je sais, que je comprends, le froid, que je et la vision aussi d'une société en combat et en complexité, ça a fonctionné aussi. Mais c'est vrai que là, par exemple, moi j'habite dans la vallée du Vénéon et en ce moment il neige. Et c'est une vallée qui est très très austère. Très très austère, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit peu d'herbe en bas où j'habite et tout de suite derrière, à 50 mètres en dessous chez moi, commencent les rochers. Et là en ce moment c'est tout glacé et tout. J'adore ça, moi c'est mon élément, mais j'imagine qu'il y a pour des gens c'est insupportable, quoi. Et donc je m'en inspire, effectivement, j'ai l'impression de les préserver dans ma petite vallée. Et pour l'anecdote, c'est marrant parce qu'à chaque fois, alors que ce n'était pas du tout au départ, Jacques Loeb m'avait pas demandé de dessiner un train au milieu des montagnes. C'était un train qui était au milieu de la Terre. Je pense que les montagnes dans la Terre doivent représenter, je sais pas, un 2 ou 2% de la surface globale. Et dans le transpercé, j'ai l'impression qu'ils sont constamment en montagne, pratiquement, quoi. Et
Donc c'est vous qui avez
eh ben,
ramené la glace,
c'est
le
moi qui
froid?
ramène pas la glace, mais qui ramenait les montagnes, quoi. Et alors, ce qui est curieux, c'est que Bong Joon-ho, quand vous voyez son film, ça se passe toujours en montagne. Il y a des avalanches, il y a des espèces de grandes montagnes, il y a des ponts avec des grandes montagnes. Et exactement pareil pour la série, où ça se passe tout le temps en montagne. Il y a des espèces de montagnes de partout. Et alors, là où l'anecdote c'est qu'il y a une des images de la série hollywoodienne. J'ai l'impression que c'est d'être dans ma vallée. Le train passe chez moi, quoi, dans la vallée du Vénéon, quoi. Et je me suis dit, j'ai tellement marqué le transpercé de mes montagnes que les suiveurs, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, oui, ceux qui, voilà, les adaptateurs, ont gardé cette montagne tout le temps. Ce qui, à bien y réfléchir, est une aberration, parce que si vous prenez le train, vous allez traverser toute la Sibérie, il n'y aura pas de montagne. Vous allez en Afrique, il n'y aura pas de montagne. Vous allez toute la grande partie des États-Unis, il n'y a pas de montagne. Il y a un petit peu de montagne au bout, avec les Rocheuses. Il y a un peu de montagne ici dans les Alpes, mais ça ne représente rien. Il y a l'Himalaya, puis c'est tout.
Donc c'est pas mal quand même, vous avez réussi à faire du monde une montagne.
J'ai fait une espèce de planète montagne, voilà.
Ah, c'est quand même le Graal, ça, non?
Oui, d'autant plus qu'on dit que les écrins, ça serait une planète montagne. C'est-à-dire que quand tu es dans les écrins, d'abord, c'est un des rares endroits en France où tu peux dormir sans voir une seule lumière. Tu peux être en plein milieu du massif des écrins, tu fais un bivouac, tu regardes autour de toi, il n'y a pas une lumière. Et effectivement, c'est une immense mer de montagne. Donc, c'est une planète montagne. Et donc, le Transpersonnage, c'est aussi une planète montagne, quoi.
Surtout que vous, aujourd'hui, vous l'avez dit, maintenant vous vivez dans les écrins, je crois, dans une ancienne auberge, et vous puisez aussi dans ce monde qui vous entoure à présent, sauvage et minéral, un monde de bergers et aussi de loups.
Les jeunes loups en dispersion qui arriveront vivants au bout du voyage. Ils sont très vulnérables dans un milieu urbanisé qu'ils ne connaissent pas. Les routes sont meurtrières. Ils ont du mal à chasser seuls et à trouver de la nourriture. Ils sont vulnérables, prennent des risques en s'approchant des troupeaux et des maisons. Ces incursions, avérées ou pas, déclenchent chez certains tensions et polémiques. Avec le retour du loup, la peur du sauvage ressurgit.
Le loup, c'est le titre de votre dernière bande dessinée, Jean-Marc Rochette. Le loup comme l'homme, finalement, avec un grand H. Et dans cette BD, parue chez Casterman, vous racontez un duel, un face-à-face entre Gaspard, un berger quand même un brin nihiliste, qui vous ressemble d'ailleurs beaucoup, beaucoup, et puis aussi ce loup. Et l'enjeu, c'est évidemment celui du territoire, de la survie aussi, ce qu'on a aperçu dans cet extrait sonore qu'on vient d'entendre, qui est tiré du documentaire de Jean-Michel Bertrand, Marche avec les loups. Alors pourquoi ce livre? Pourquoi les loups, Jean-Marc Rochette?
Dans ma vallée, les loups qui avaient disparu depuis finalement très très peu de temps, je pense depuis 50, 60, 70 ans, ce qui représente au niveau
à l'échelle de l'humanité, de l'histoire de
non, rien du
l'humanité.
tout. C'est-à-dire qu'en fait ils sont partis, ils sont sortis fumer une cigarette à l'extérieur, hein, ils sont revenus immédiatement. Et il y a eu une attaque chez un berger dans la vallée de l'Enchâtrat. Moi je n'étais pas au courant, mais il est passé devant chez moi et il m'a parlé. Donc il m'a fait une description apocalyptique de l'attaque du loup, et ça m'a déclenché l'envie de faire une histoire entre ce loup un peu sur l'idée du vieil homme et la mer, ou de Aqab et Moby Dick, etc. Une histoire classique en fait finalement. Et je me suis pris au jeu et j'ai commencé à penser à... D'abord je sais où sont les loups, Au début, il y en avait qu'un qui est arrivé, il était un peu pelé, puis après, il y en a eu deux, il y en a eu trois, il y en a quatre, et maintenant,
il y a une meute.
Il y a une meute qui se forme, qui se déforme peut-être, mais enfin, ils sont là, là, et c'est sûr qu'ils sont là. Et après, ça a été un parcours de Gaspard, donc, qui poursuit ce loup et qui passe sur un parcours bien défini, ça passe en dessus de la vallée en dessous de chez moi, le vallon des étages, il monte un col qui est très 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 raide. Quand je le montre aux gens, c'est par là que passe Gaspard. Les gens sont surpris, pour un homme pour son âge, oui, mais il redescend, etc., etc. Et d'ailleurs, les gens ont acheté pour faire un film, et j'ai demandé simplement
comme vous voulez dire, ils ont acheté les droits du livre.
Les droits pour faire un dessin animé, oui, avec. Je pense que c'est une très belle maison de production. Je pense que ce sera un très beau film. Enfin, en tout cas, j'ai dit la seule chose que j'ai imposée, c'est que ça soit les montagnes de chez moi. Voilà. Je leur ai dit sur contrat d'ailleurs. C'était sur contrat. Il faut qu'on reconnaisse les montagnes. Ce n'est pas des montagnes lambda. Ça se passe pas chez Ivy. Ça se passe dans la vallée du Vénéon. Et donc, ils vont venir. Là, pour l'instant, j'ai plus de nouvelles d'eux parce qu'ils doivent être en train d'écrire, réécrire, enfin, adapter l'histoire. Mais ils vont venir, vous avez dit, j'ai un ancien hôtel, il y a de la place. Et donc ils vont venir et je vais leur faire faire un petit tour, ou un gros tour, pour que ça soit imprégné du lieu. Et bien sûr, le loup, c'est quelque chose qui me fascine, c'est l'anarchiste, c'est celui qui ne connaît pas la propriété, c'est le type c'est le retour du sauvage, comme dit Bertrand, et moi je le ressens très fort, c'est le tribal, c'est la méfiance, c'est...
Surtout que leur relation évolue, c'est-à-dire que ce qui était un duel plutôt conflictuel se transforme aussi en dialogue. Alors il faut en passer aussi quand même par beaucoup de violence, par aussi une mise en jeu à chacun, autant le loup que l'homme de leur propre vie. Mais au final, il y a une espèce d'union un peu sacrée, un peu sauvage.
À la fin, c'est des frères de sang, il le dit... Ils font partie de la même chair de la montagne et chair des mammifères. Mais au départ, c'est vrai qu'il y a une haine absolue qui se rend. L'homme en question lui-même, il a perdu son fils au Mali. Déjà, donc, c'est quelqu'un qui a une vision du monde
assez noire.
Assez noire. Sa femme est devenue folle avec la perte de son fils. Il vit seul. Il se fait tuer son chien. Ce qui d'ailleurs est une chose tout à fait classique. Par exemple, là, le fameux berger qui a donc respiré, il est monté avec un patou dans la vallée. Je lui dis, je voyais ce patou, je lui dis, mais dis donc, il est ton patou là, il est tout seul et puis il est un patou très timide, quoi. Et il s'est fait bouffer, quoi. Les loups l'ont attaqué, l'ont tué, quoi. Donc ce type perd son chien et là quand il se fait tuer son chien, c'est de la haine absolue, quoi. Parce que pour ceux qui ont des chiens, quand t'aimes un chien ou quand un chien t'aime, tu le tues, mais c'est impardonnable. Enfin, c'est la déclaration de guerre. Il a perdu ses moutons, c'est une chose, mais qu'il ait tué son chien, alors ça c'est juste... C'est pas possible.
Alors, cette année, au Grand Bivouac, vous êtes ici pour parler justement de ce livre, aussi pour présenter un film qui vous suit dans les écrins, dans votre territoire.
Voilà.
Y a aussi certaines de vos planches qui sont exposées juste en contrebas. Et puis, on est là à discuter, à parler de la montagne, vous la dessinez, vous la racontez. Je me suis dit que finalement, vous, qui vous destiniez au départ à être guide en montagne, vous l'êtes un peu, en quelque sorte, à votre manière, guide, ou passeur, en tout cas, de montagne.
Oui, d'ailleurs, ils m'ont donné la médaille des guides dans les écrins.
Ah, ça, c'est pas banal, c'est chouette,
non ? Ben, j'étais très, très fier, j'ai vu ma petite larme, là. Ben, c'est Gary Bert, je suis guide honoris causa, j'imagine. Bon, je n'ai pas le droit d'emmener des clients en montagne, mais en tout cas, je suis guide, j'ai la médaille, c'est important. Et oui, je pense. Et d'ailleurs, quand je discute avec des guides, que ça soit ici ou à Chamonix, je sens qu'on a beaucoup de fraternité, quoi. Je fais partie de la famille, en tout cas, c'est sûr. Et là, je rattaque une autre bande dessinée qui se passera dans le Vercors. Une histoire qui fait pareil, qui est écrite, que je commence à dessiner. Là, je suis en plein dedans et qui va faire 200-300 pages. Ça va être une espèce d'immense saga du Vercors. J'espère que... Alors, une histoire d'amour passionnelle. Parce qu'on m'a reproché qu'il y ait peu de femmes dans mes histoires, ce qui est faux, parce qu'il y a ma mère, il y a ma grand-mère dans Rive Froide.
Oui, mais elles ne sont pas alpinistes, peut-être c'est ça. Mais c'est vrai que, de toute façon, originellement, l'alpinisme était très viriliste, masculin. Il y a des femmes qui se sont imposées, mais elles étaient plus rares.
Après, il y avait Simone Badier, qui était une très grande alpiniste des années 70. Et celle qui a fait que les femmes sont devenues des grandes alpinistes, c'est Catherine Vestivelle. qui est un peu plus jeune que moi et qui doit avoir 3 ans, on a à peu près la même génération. Et elle, quand elle est arrivée, c'était début des années 80 et elle a révolutionné la pratique. Et donc, là, il y aura une histoire d'amour, hein, vraiment. Voilà.
Alors, c'est étonnant parce que c'est un peu aussi votre histoire avec la montagne. C'est amour, haine, comme je disais en préambule, c'est aussi une filiation. Vous avez fait un grand tour, vous êtes éloigné de cette montagne, vous lui avez tourné le dos, vous en parlez plus.
Non, mais je l'aime,
plus.
Mais je m'en méfie, hein, la montagne. Je suis quand même, comme disait Robuffa, quand je suis en montagne, je fais très, très attention où je mets mes pieds. Hein. Elle est très très belle, mais elle a un coup de griffe terrible. Donc, je l'aime et je m'en méfie, quoi. Et il faut. Vraiment.
Mais est-ce que c'est pas le cas dans toute histoire un peu absolue comme ça, toutes les histoires un peu d'amour absolu où à la fois on aime passionnément et puis tout d'un coup on se méfie à la fois de soi et de l'autre.
Ouais, il faut se méfier de l'amour, ça fait mal quand ça s'arrête, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein, mais c'est la vie. En tout cas, oui, la montagne, c'est de l'amour, c'est de l'amour.
Et comment on tombe amoureux
d'une montagne?
Ouais.
Ouais, c'est la beauté, c'est l'immanence, c'est, il y a une mystique quand même. C'est en montagne, on est quand même. Moi, il y a des endroits quand je suis seul en montagne, quand je marche seul en montagne, j'ai pas l'impression d'être vraiment seul. Je suis pas sûr que ça soit moi qui regarde la beauté, ou si c'est pas la beauté qui me fait vivre. Il y a une espèce d'effet miroir en montagne. Quand on est seul, hein, à deux, tendance à se réfugier dans l'autre, l'humain, qui est quand même très rassurant. Quand on est seul en montagne, il y a des endroits où, par exemple, en dessous de chez moi, dans l'aiguille, il y a des endroits où il y a des espèces d'immenses vallées qui ont été creusées par les glaciers. Et là, je vois le temps qui a immémorial. C'est des centaines de milliers d'années. Et je suis devant et ça fait un effet ontologique extrêmement fort. Et ça, tu le recherches. Tu le recherches. Cette espèce de présent éternel, de tout ça, c'est une espèce de, c'est très fort au niveau métaphysique. Et c'est pour ça qu'on aime ça. Mais il y a des gens qui ne le supportent pas, par exemple. Cette espèce de présence de la mort, de choses-là, c'est des gens qui, en montagne, seuls, ils ne le supportent pas. Ça te renvoie à ta finitude, ça te renvoie à ton rien. Ça te renvoie aussi à une beauté qui te dépasse absolument. Par contre, quand tu as goûté à ça, quand tu es tombé amoureux de ça, c'est pas une relation qui peut s'arrêter, quoi.
Oui, c'est pour ça qu'on y retourne.
On y retourne et c'est... Bon, maintenant, j'habite en plein milieu et je vieillis, donc j'ai une maison. Il suffit que j'ouvre les volets maintenant.
Merci en tout cas, Jean-Marc Rochette.
Merci.
Merci aussi à Antoine pour sa lecture et à la Sonothèque de RFI pour ses archives. Merci également à la médiathèque d'Albertville pour son accueil. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les références des ouvrages de Jean-Marc Rochette, mais aussi le lien du Festival du Grand Bivouac qui, cette année, propose en ligne une version digitale avec de grands films qui, justement, nous parlent de géographie sacrée, de liens avec la nature et le monde sauvage, espérant, appelant à de nouveaux jours. C'est le thème cette année du festival. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary, on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, faites de beaux voyages à l'écoute de RFI.